Matière à penser, Dominique Rousset.
Et la suite de notre série « L'animal et l'avenir de l'homme ». Nous sommes au troisième épisode. Jusqu'à vendredi, nous explorons la connaissance scientifique sur le monde animal. Nous nous interrogeons sur la domination de l'homme, sur les animaux, en dépit de nouvelles découvertes toujours plus surprenantes sur leur sensibilité et plus prosaïquement sur leur utilité, à condition bien sûr de les respecter. Mon invité ce soir insiste aussi sur leur beauté. Même si d'ailleurs, ils ne sont pas tous beaux, mais même les moches sont beaux pour lui et il va nous le démontrer. Beauté de tous les êtres vivants et il s'inquiète avec beaucoup d'autres du recul à une vitesse foudroyante de la biodiversité. Son credo, la préservation des écosystèmes doit être le souci de tous, sinon on n'y arrivera pas. Notre sous-titre donc, aimer la biodiversité ou partir avec elle. Bonsoir Gilles Boeuf.
Bonsoir.
Professeur à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, ex-président du Muséum d'Histoire Naturelle. Mais je rappelle aussi, parce que ça a son importance, même si c'est ancien, que vous avez passé beaucoup de temps à l'IFREMER, l'Institut sur la mer, où donc vous êtes un spécialiste très reconnu en océanologie, biodiversité et toutes les ressources vivantes marines. Et vous présidez actuellement le conseil scientifique de l'Agence française de la biodiversité. Et puis on vous connaît fort bien à France Culture, car vous avez été professeur invité au Collège de France. Et à ce titre, vous avez délivré une série de conférences passionnantes et qui ont eu beaucoup de succès sur notre chaîne et qui sont toujours disponibles à l'écoute, ça compte. Pas d'animaux sans plantes, sans bactéries, sans champignons, c'est l'origine du monde, Gilles Boeuf, on commence avec ça, avant de nous demander ce qu'est un animal.
Tout à fait, il y a deux très beaux livres qui sont sortis l'an dernier, qui ont été écrits par des gens qui sont extrêmement intéressants. Marc-André Sellos a écrit un livre qui s'appelle « Jamais seul » et il montre comment un arbre est lié à des micro-champignons, à des bactéries dans un sol. Et le dernier, c'est le livre d'Éric Batteste qui s'appelle « Tous entrelacés ». Et ces deux livres sont extraordinaires. Ils nous donnent à voir une image différente de l'évolution. En fait, on est tous des espèces de symbiose. Un corps humain, je le dis souvent, c'est au moins autant de bactéries sur lui et dans lui que de cellules humaines. Et on montre maintenant que ces bactéries au sein de nous-mêmes entrent en interférence avec nos cellules humaines. Un humain, en fait, c'est une construction. Je dis souvent aussi qu'un bébé humain qui naît, c'est trois quarts d'eau. Donc si un humain, c'est de l'eau et des bactéries, ça devrait lui rabattre un peu le caquet qu'il a de s'imaginer si dominateur vis-à-vis du reste du vivant. Nous sommes tous très entrelacés.
Et qu'est-ce qu'un animal? Alors ça, c'est facile et difficile à la fois. C'est une question
qui n'est pas simple du tout. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît? On peut refuser la biodiversité. C'est l'ensemble de tout. Les bactéries, les grosses cellules à noyaux que sont les micro-algues marines, par exemple, ou les levures. Ce sont les champignons, les plantes et les animaux. On a dépassé 2 millions d'espèces connues déposées dans les musées. On a combien réellement? Peut-être 10 fois plus. Et c'est tout ça, en fait, la biodiversité, le vivant. Donc je dis souvent, la biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature. Il y a une géodiversité avant. Il y a des minéraux, il y a des falaises, il y a un océan, il y a du vent. Et le vivant apparaît un jour dans cet océan ancestral et va démarrer cette biodiversité. Au départ, c'est une cellule qui se coupe en deux, deux copies de la maman, deux cellules filles. Donc c'est vrai que l'animal, c'est en fait un être vivant qui, en général, est mobile, pas toujours, mais la plupart du temps, et qui n'est pas capable en fait de se débrouiller tout seul à partir de la lumière pour faire les nutriments dont il a besoin, comme le fait une plante. La plante fait sa photosynthèse, donc il suffit d'avoir de l'eau, ça marche pas en dehors de l'eau, tout est dans l'eau. Toutes les cellules vivantes
tout est dans l'eau,
sont dans tout. D'ailleurs, quand la vie sort de l'eau, première obsession, garder l'eau à l'intérieur. Tous les deux, là, on est fait de 2/3 d'eau. Et donc, cette eau, c'est le premier système. Et puis ensuite, l'animal, effectivement, va consommer pour son alimentation ces êtres vivants qu'on dit de la production primaire, comme les plantes, par exemple, ou les algues. Et l'animal est aussi organisé de telle façon que, depuis l'apparition des animaux sur Terre, c'est vieux, ça remonte largement, c'est à la fin de ce qu'on appelle le précambrien, on a des animaux très différents. Alors en gros, aujourd'hui, sur les 2 millions d'espèces connues, 1,3 million sont considérés comme animaux. Les plus anciennes sont par exemple les éponges, par exemple. Et vous avez des animaux qui ne bougent pas, les coraux, les éponges, elles bougent sous forme de larves, mais une fois fixées quelque part, c'est fini. Elles sont comme un arbre à ce moment-là, Elles vont se débrouiller comme ça. Donc l'animal, c'est vrai que c'est pas facile à définir, et l'animal est aussi considéré souvent comme étant en évolution différente par rapport aux plantes. Ça n'a pas de sens en fait. Ce qui est clair, c'est que c'est très net, il n'y aurait pas d'animaux sans plantes depuis les origines.
Ça, c'est le point de départ. Il va nous falloir beaucoup de temps encore pour connaître toutes les espèces. Vous dites on en connaît quoi, à peine 10%.
Voilà.
Faire un inventaire complet, ça va nous prendre combien de temps?
C'est une bonne question.
Mais est-ce qu'on va avoir le temps surtout?
C'est une très bonne question. Quelqu'un l'a posé la question à un copain néo-zélandais. Aura-t-on le temps de tout décrire? Non. En gros, 2 millions connus.
Parce qu'on abîme trop tout ça.
Bien sûr, ça va beaucoup trop vite. 20 millions peut-être existants, donc 20 moins 2, ça fait 18 millions. Or, j'ai regardé depuis 15 ans, ça bouge pas. On décrit comme espèce nouvellement connue 18 000 par an. Donc, il nous faut 1000 ans. 1000 ans, simplement, à la vitesse actuelle, pour décrire ce qui existe. Or, on aura perdu la moitié à la fin de ce siècle.
On parle beaucoup d'extinction des espèces, mais vous allez nous éclairer là-dessus, parce qu'on fait aussi des erreurs. Il y a eu quoi ? C'est déjà 5 extinctions. On serait, je parle au conditionnel, à la 6e. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce terme d'extinction. Vous parlez plutôt d'effondrement
des populations. Voilà, des nombres d'individus dans les populations. En gros, bon, on dit les animaux apparaissent à la fin du précambrien. Il y en a beaucoup déjà avant le cambrien. Tous les grands groupes zoologiques sont partis à ce moment-là, dans l'océan, que dans l'océan. Plus tard, ils vont venir sur la Terre. Et c'est vrai que quand on parle d'extinction, on a eu des grandes crises d'extinction. Donc, on a eu 60, en réalité, depuis 800 millions d'années, mais dont 5 majeures. Donc, la troisième, c'est la plus importante. C'est ce qu'on appelle la charnière entre le Permien et le Trias. On passe de l'ère primaire à l'ère secondaire. 96% des macro-individus connus disparaissent. Autant dans l'océan que sur Terre. Ensuite, par exemple, les corotabulés ont disparu. Les trilobites, qui étaient si importants durant l'ère primaire, il n'y en aura plus jamais. Les oursins, qu'on aime beaucoup, hein, moi qui suis un marin, il y en a deux qui passent la crise. Fin Permien, début...
Tous les autres ont disparu. Début,
voilà. Et deux passent la crise. Aujourd'hui, on a 700 oursins différents sur la Terre, qui sont partis des deux qui ont passé la crise en question. Donc aujourd'hui, on assiste en fait aujourd'hui à un effondrement du nombre d'individus dans les populations. Ça, c'est très
clair.
On
rappelle que la précédente, la cinquième, c'était déjà il y a quand même 65 millions d'années.
Tout à fait.
Les fameux dinosaures. Donc,
la troisième et la cinquième, les fameux dinosaures. Et c'est l'explosion ensuite des mammifères qui étaient petits auparavant. Parce qu'un gros mammifère, imaginez un cheval, quand vous avez des dinosaures comme ça, il était mangé tout de suite en fait. Hein. Donc ils étaient petits, comme des lapins. Ils vont exploser, on aura des gigantesques mammifères, des rhinocéros incroyables, trouvés en Turquie, au début de l'ère tertiaire. Et c'est aussi les oiseaux, puisque les dinosaures n'ont pas disparu. Les oiseaux sont les dinosaures actuels.
Si on parle d'une sixième extinction, donc vous faites bien la différence, c'est pas un bon critère pour vous, il vaut mieux parler des populations qui réduisent.
Oui, je préfère parler
et de la vitesse à laquelle ça se passe. C'est surtout ça.
Et surtout de l'accélération.
C'est surtout ça. Voilà.
L'accélération est épouvantable. Un exemple de travaux du muséum récemment avec des collègues du CISE, du CNRS, en 12 ans, on a perdu 30% des oiseaux des terrains agricoles en France.
12 ans.
En Allemagne, 27 ans, 75% de tous les insectes qui volent. Ça, c'est effarant. Alors, si je prends les grandes espèces qu'on connaît bien, qu'on n'est même pas fiché de protéger, d'ailleurs, hein, les éléphants, les rhinocéros, les guépards, les girafes, on a beaucoup travaillé là-dessus, et puis aussi, bien sûr, les lions, ils partent. Les lions ont disparu plus de la moitié, en 40 ans. La moitié des girafes en 40 ans. Pourquoi ?
Oui. Et ce qui est terrible, c'est que vous, scientifiques, enfin, vous-même, bien sûr, mais beaucoup d'autres, faisait des prévisions beaucoup plus lointaines. Hein. Moi, je me rappelle il y a 10-15 ans, peut-être, les grands articles dans Nature, dans toutes les grandes revues scientifiques, parlaient plutôt, nous disaient dans 100 ans, dans 200 ans.
Vous avez tout à fait raison.
Or, c'est dans 40 ans maintenant.
Et c'est exactement pareil.
Vous avez changé d'avis, je veux dire, vous êtes encore
pour
plus...
Pour le climat, nous sommes effarés de voir la vitesse à laquelle les grands glaciers continentaux s'en vont et les glaces de l'Arctique. C'est incroyable, beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé.
Donc, grosse angoisse quand même.
Oui, bien sûr.
Les espèces communes, les espèces rares, est-ce que certaines disparaissent plus vite que d'autres ? Pas forcément.
Non. C'est intéressant d'ailleurs parce que on appelait ça à l'époque les vortex d'extinction. On disait, il y a un moment, il reste tellement peu d'individus, c'est le cas des baleines. Les baleines franches arctiques et antarctiques, il reste quoi, 2% de ce qu'on avait en 1800. Donc première question, c'est difficile pour le couple de se retrouver déjà. Hein. Et sans couple, il n'y a pas de bébé. Et puis ensuite, on voit bien que rendu en dessous d'un minimum, c'est très difficile. L'extinction du dernier peut prendre du temps, mais la régénération d'une population capable d'évoluer dans un milieu et de continuer à s'adapter à tout, il faut un minimum de base génétique. On a eu des très beaux cas récemment sur des sauvetages in extremis de perruches, par exemple, en Nouvelle-Zélande, qu'on met sur une île, il faut dératiser l'île, ça coûte une fortune, c'est difficile. On met nos perruches, elles repartent, mais à partir d'un couple ou de quelques couples. Et ça, c'est vrai qu'on a une base génétique quand même qui est très faible. Et c'est là que nous, écologues, on se heurte aux biologistes qui nous disent, en fait, on va vous les refaire. Votre grenouille a disparu à 17 ans, il m'en reste dans un musée. Ils vont en faire une ou deux, ça va coûter une fortune. C'est pas une population, ça. Parce que le vrai juge de paix, c'est de remettre un individu, l'animal, dans une population sauvage. Et là, on voit bien ce qui se passe.
Ouais. Vous parlez évidemment de tous les grands mammifères qui sont chers au cœur de beaucoup de citadins déjà, enfin de beaucoup de monde. Les rhinocéros, par exemple, vous inquiètent beaucoup ?
Complètement. J'étais en Zambie il y a quelque temps. Le président de Zambie me disait, on avait 2000 rhinocéros en Zambie il y a 20 ans. Zéro aujourd'hui. On a mes deux d'Afrique du Sud qui sont dans un pseudo-zoo à Livingston. Mon ami Franck Courchamp, qui est écologue, a fait un très bel article l'an dernier, nous dit que même celles qu'on aime, il dit c'est l'effondrement paradoxal des espèces les plus emblématiques que l'on aime, charismatiques, elles partent. Et vous savez pourquoi? Parce que ils avaient fait un travail sur la publicité. Quand est-ce qu'on cite un nom d'animal? Le chocolat, le thé, les voitures. Eh bien, tous ces animaux, les gens entendent parler en permanence. Tous les jours, ils entendent ces noms-là.
Ah oui, la barre de chocolat, le lion, etc.
Voilà, d'accord. Le thé, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, ils sont partis, en fait. Ce qui fait que, contrairement à ce que les gens pensent, ces groupes-là, très charismatiques, sont en train de partir.
Et pour le rhinocéros, le lien à l'économie est à faire, parce qu'il y a la fameuse corne de rhinocéros qui vaut une fortune.
Aujourd'hui, c'est la substance naturelle la plus chère du monde, plus que le platine, que le titane, que l'or, que la cocaïne. C'est 100 000 dollars le kilo.
Encore un mot sur la biodiversité, revenons en France, et puis surtout intéressons-nous à des animaux beaucoup moins emblématiques ou beaucoup moins aimés de la population, des enfants et des autres. Dramatique pour le hérisson, dramatique pour les grenouilles.
Complètement. Alors les grenouilles, justement, je fais un pas hors de France, je rentre juste du Chili, là où j'avais une mission pour participer au grand congrès mondial qui s'appelle le Congreso del Futuro. Et j'avais des amis qui m'avaient dit, on va retrouver la petite grenouille qu'avait repérée Darwin en Patagonie. Et d'ailleurs, plus tard, elle sera décrite comme Rhinoderma darwini. On l'a retrouvée. Elle disparaît. Pourquoi? Parce que ces forêts primaires de Notophagus, les grands chênes du Chili, et d'Araucaria sont remplacées aujourd'hui par des eucalyptus et par des pins. On a la même histoire partout, pareil.
Le lien du vivant.
Pour revenir à la France, bien sûr, les amphibiens s'effondrent parce qu'on pollue les mares. Elles disparaissent. Mes chères libellules que j'aime tant, j'en parle souvent, on a fait un papier avec Thierry Marx, qui s'appelle « Ode à la libellule », la stratégie de la libellule. Elles partent dans l'indifférence générale, alors qu'une libellule, c'est génial. Ce qu'elle sait faire, c'est ahurissant de beauté, d'ingéniosité. On s'en occupe pas.
Aucun hélicoptère de combat est capable de faire ce qu'elles font.
Elles sont bien derrière. Et les amphibiens, c'est les plus menacés des vertébrés aujourd'hui parce que ils sont affaiblis à ces marques, ils sont toutes contaminées et polluées, voire asséchées complètement.
On va en venir à la sensibilité de ces animaux et à leur beauté. Je le disais, même ceux qui sont moches, vous les trouvez beaux. Ils sont tous passionnants. Qu'est-ce que c'est qu'un tardigrade? Ça fait un millimètre.
Oui, entre un demi et un millimètre et demi. C'est tout petit. On les appelle les nounours à huit pattes. Donc c'est pas des arthropodes. Ça ressemble un petit peu à un petit nounours avec huit pattes. Et c'est extraordinairement capable d'adaptation. On a réussi à les déshydrater dans des conditions incroyables. Ils vont vers un froid absolu. On les a congelés dans de l'hélium liquide. C'est quelques degrés Kelvin. Donc c'est moins de 168 degrés Celsius. C'est le zéro absolu. Alors quand on leur fait ça, ils n'aiment pas trop, ils perdent leurs pattes et leur tête. Mais si vous les remettez en condition normale, ils refont une tête, des pattes, et s'ils ont une copie de tardigrade, ils refont des bébés tardigrades. Vers le haut, ils vont très haut en température, ils supportent des déshydratations, je le disais, ils supportent un manque d'oxygène. C'est vraiment un groupe d'animaux un peu quand même, si vous voulez, élaborés, c'est pas une bactérie, loin de là, qui sont fascinants dans leur capacité adaptative. Ils seront là bien après nous, les tardigrades. Ouais. Ils vivent dans les lichens.
On peut dire deux choses de tous ces animaux en vous écoutant. C'est d'une part, on va y revenir d'ailleurs sur leur sensibilité. Et chaque année, on en découvre de nouvelles espèces et on découvre la sensibilité de nouvelles espèces. Les poissons, c'était quoi? En 88, on s'est rendu compte qu'ils étaient extrêmement sensibles.
Ouais.
Et on découvre aussi leur utilité, mais c'est même un petit mot, pour la science et pour la recherche. Donc on est en train de les détruire de deux manières. Effectivement, déjà, c'est dramatique. Mais en plus, on est en train de se priver d'une richesse considérable.
Vous avez raison, il y a une considération éthique évidente. Pourquoi est-ce que nous, on a eu le droit et pas nos enfants, nos petits-enfants? Ensuite, le côté utilitariste, il est un peu spécial. Ce que je dis souvent aux gens, réfléchissez à tout ce que vous avez fait depuis ce matin, qui ne sert absolument à rien, mais qui vous apporte du plaisir. Contempler un animal, par exemple, caresser son chat. Il y a un cas qui est vraiment merveilleux pour moi. C'est le cas de ce qu'on appelle le rat taupe nu, qui est un animal incroyable. Sur nos critères, il est ultra moche. Il n'avait aucune chance sur les critères de beauté de survivre, ce pauvre rat taupe nu. Il vit dans des terriers en Afrique de l'Est. Et en 2005, on se rend compte que cet animal est un rongeur qui vit 50 ans, ce qui est exceptionnel. Un rongeur, une souris, un rat, ça vit quelques années. Et il ne fait jamais de cancer, jamais de tumeur. Et du coup, le rat taupe nu ultra moche devient une gloire animale qui va sauver l'humanité, si on comprend pourquoi lui ne fait jamais de cancer. Et nous, on en fait de plus en plus, lié à ces conditions changeantes de l'environnement. Donc c'est un cas parmi d'autres. Il y a notre amie Virginie Maris, qui est une philosophe de la biodiversité, qui a fait un joli article sur comment sauver un petit poisson tout noir, un cyprinodonte, qui vit dans le fleuve Colorado. Il est moche, il est petit, il a un goût affreux. mais il faut 50 millions de dollars pour le sauver. Est-ce qu'on va les mettre? Ce qui veut dire qu'on va mettre des critères particuliers pour sauver ce qu'on aime, ce qui est beau, on le disait à l'instant, qui sert à quelque chose. Je suis bien infichu ce soir-là de dire qu'est-ce qui est utile et pas, en fait. Hein. Puis ça relance tout le débat sur les animaux dits nuisibles, ça n'a pas de sens. Comme je dis souvent, ces animaux étaient là bien avant les humains sur la Terre. Donc, les dieux du vivant auraient inventé un truc, excusez le terme, pour emmerder les humains, qu'elle apparaisse plus tard. Ça n'a pas de sens.
Parlons quand même, parce que ça fait toujours un petit peu rêver leur sensibilité, leur intelligence ou leur compétence, je ne sais pas bien comment on les définit. Il y a plusieurs exemples. Il y en a un que vous aimez beaucoup parce que vous aimez l'animal. Et alors lui, je ne sais pas quand il a été déclaré sensible, c'est le poulpe.
Oui, en fait, c'est les premiers invertébrés. Vous savez qu'on classe en gros hein, tous les animaux
comment
en vertébrés
et invertébrés. C'est
ancien, c'est plus tellement utilisé, mais c'est pratique aujourd'hui. Ceux qui ont des vertèbres, ceux qui n'en ont pas. Donc une immense majorité n'en ont pas. Hein. Et ceux qui en ont, ce sont donc les poissons, les amphibiens qu'on évoquait tout à l'heure. Ce sont effectivement les ce qu'on appelait les reptiles avant. Hein. Et puis maintenant, tortues, lézards, serpents, les oiseaux et les mammifères. On avait classé d'abord tout cela sauf les poissons. Et vous le disiez très justement, en 88, les poissons sont reconnus comme étant sensibles. Ils sont sensibles depuis le début, ces bestioles-là. Quand on voit ce que c'est faire une truite, c'est ahurissant. Ou un petit épinoche qui fait son nid pour appeler sa femelle, pour la séduire, c'est très sophistiqué. Et les premiers invertébrés qui ont été classés, ce sont les céphalopodes. Alors les céphalopodes, tout le monde les connaît, ce sont les pieuvres, les calmars, les seiches. D'abord, ce sont les plus grands invertébrés. Le grand calmar géant, il fait 14 mètres, hein. Vous vous rendez compte, c'est plus grand que beaucoup de vertébrés. Et ils ont une sensibilité et une capacité neurologique tout à fait fascinante. D'abord, ils ont un œil extraordinaire, largement aussi compliqué que le nôtre. Et puis ensuite, ils sont capables de choses... On avait un exemple parmi d'autres, une pieuvre dans un aquarium à Vancouver au Canada, depuis 5 ans. Tous les jours, la pieuvre de l'aquarium... Au moment de la marée à l'extérieur, il n'y avait pas de marée dans son bassin, descendait au fond du bassin quand il savait que la mer allait descendre. 5 ans après! Et on sait tous que la marée, elle change d'heure tous les jours. L'autre cas que je raconte souvent, qui est assez fascinant.
C'était à Monaco, à la ferme de Monaco,
avec mes amis de Monaco. Il y avait un poulpe qui sortait de son bassin. Enfin, en fait, on avait des coquilles Saint-Jacques qui disparaissaient dans un bassin.
C'est-à-dire qu'il y avait deux bassins voisins.
Voilà, par quatre bassins séparés, par quatre bassins différents. Hein. Ouais. Et donc, elles disparaissaient les coquilles Saint-Jacques. Il y a un homo sapiens à deux pattes qui vient les prendre pendant la nuit. On planque pendant une nuit, le poulpe sort de son bassin, marche sur le sol, rentre dans le bassin des coquilles, mange les coquilles Saint-Jacques, redescend, rentre dans son bassin et là, le must, retire le couvercle sur sa tête pour que son bassin apparaisse comme toujours fermé. Et j'ai une autre histoire très récente d'une sèche. Filmé par la BBC, c'est magique pour moi. Hein. Ce sont des grandes sèches. Les garçons et les filles ont des couleurs différentes. Et vous savez que les sèches changent très très facilement de couleur, comme les caméléons. Ça se fait instantanément. On passe du vert au jaune au rouge. Donc les filles sont striées d'un côté, les garçons de l'autre. Deux grands mâles de sèches se battent pour avoir les filles. Donc les filles attendent dans un coin, les deux grands mâles se battent. Arrive un petit mâle. En quelques secondes, il comprend la situation. Il n'a aucune chance en combat singulier contre les deux gros. Il change de couleur, il y a une fille, en apparence. Les filles savent bien que c'est pas une fille. Il féconde toutes les femelles qui sont là. Et quand les deux grands ont fini de se taper sur la figure, toutes les filles ont été fécondées par le petit, qui est pas le plus grand, mais le plus malin. Alors ce qui est vraiment gentil, c'est qu'on a démontré que la femelle se laisse quand même, va accepter effectivement un accouplement avec les grands mâles qui se sont battus.
Allez, encore une histoire pour se faire plaisir. Yves Frissel nous en a cité plusieurs sur la sensibilité.
Bien sûr.
Après, entre la performance, l'intelligence, la sensibilité, il y a des nuances à faire.
Alors, sur l'intelligence, il faut être très clair, en fait, il y a plein d'intelligences différentes. Rien que chez l'humain, déjà en ce moment, il y a des travaux qui sortent, on dit au moins 10 intelligences différentes. Techniques, sensitives, il y a plein de choses différentes. C'est pareil chez les animaux. Ce qu'il faut bien voir, en fait, quand on compare l'humain à l'animal, c'est que l'animal, d'abord, arrêtons de les prendre, excusez le terme, pour les cons, les animaux, parce que les arbres, c'est pareil, si c'était con, ils seraient plats depuis très longtemps. Ça, je suis formel là-dessus et très véhément pour le dire, mais ils sont adaptés à leur situation. Un cachalot, il tient une heure et demie en plongée, il monte une aspiration en surface, il redescend 40 minutes, c'est vital pour lui. Le chat est adapté à quelque chose, le crotal, l'éléphant, mais certains ont des performances remarquables. Et ce dont on se rend compte aussi aujourd'hui, et ça on l'a pas bien pris en considération, bah c'est que les individus sont différents. Il y a des rats plus stupides que d'autres, il y a des éléphants plus intelligents que d'autres. Mais un rat, je prends le cas des rats, globalement les rats, ils sont bien meilleurs que moi pour sortir d'un labyrinthe par exemple.
Et vous aimez beaucoup un petit moineau aussi, je sais plus dans quel endroit vous l'avez cité.
C'était à Montpellier qui venait cuire les asticots sur le capot de la voiture qui avait fait un long trajet.
Incroyable, ouais. Performance physique, évidemment, rapidité, endurance, bien mieux que nos meilleurs sportifs.
Bien évidemment. Alors, je dis souvent, justement, mes copains médecins n'aiment pas trop ça, parce que l'humain est tellement supérieur, dit-on. Bah, je prends Bolt, qui est l'homme le plus rapide du monde. Il court, Bolt, à la vitesse d'un chat. Si je prends Michael Phelps, avec toutes ses médailles d'or olympiques, il nage à la vitesse d'une carpe. Alors on me dit, oui, mais tu comprends, l'humain, il sait nager et courir. Bah, j'ai dit, les animaux, ils savent nager, courir, et certains, ils volent en plus. Faut pas les comparer comme ça. Ils sont beaucoup plus performants, parce que dans leur mode de vie à eux, c'est vital pour les niches écologiques qu'ils occupent, tout simplement.
Une nouvelle actualité, d'ailleurs, je crois que c'était fin janvier, Gilles Boeuf, une étude américaine sur les champs des baleines, qui ne sont pas, vous l'avez certainement vu passer ça, qui ne sont pas les mêmes partout. Or, elles se rejoignent, je crois, dans l'Antarctique, et elles arrivent à mémoriser les chants de leurs congénères arrivés de l'autre côté.
Oui, c'est fascinant.
Extraordinaire.
Ceux qui sont très très bons sur les oiseaux. Hein. Sur les tourneaux, qui est très banal, les tourneaux sont capables de performances auditives tout à fait exceptionnelles dans les chants qu'il émet, qu'il reçoit et qu'il décode. D'ailleurs, il y avait un très joli article d'un Américain qui s'est intéressé au son. Et lui, en fait, écoute la vie au lieu de la regarder. Et il me disait, dans des zones du Costa Rica qui n'avaient été pas trop dégradées, Bernie Krause, il s'appelle, il a écrit le grand orchestre animal, il dit, sur des photos, on voyait pas de différence. J'écoutais les sons, il y avait des oiseaux, mais ils ne chantaient plus.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage, et l'on voudrait bien changer au cours du voyage, ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut devienne la rage qui apporterait du ciel, qui a plus qu'un message, qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage, des plumes en écailles, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre?
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
En compagnie de Gilles Boeuf, biologiste, président du conseil scientifique sur la biodiversité. Nous avons parlé de la beauté des animaux, de leur utilité, de la perte de la biodiversité. Gilles Boeuf, qui vous désole, comme beaucoup d'autres scientifiques. Et allons un petit peu plus loin pour essayer de voir déjà ce qu'on peut faire maintenant, hein, comment agir contre tout cela. Un exemple, et le lien avec l'environnement va être fait tout de suite. Un exemple, les animaux ne laissent pas de déchets.
Animaux et tous les êtres vivants. C'est-à-dire que dans la nature, c'est intéressant. En fait, je dis souvent, chaque fois qu'on fait un déchet, on a un acheteur. Alors, je prends l'exemple de ma forêt. Je préside une forêt qui est la réserve de la Massane dans les Pyrénées-Orientales. 440 hectares, plus de 8000 espèces connues sur cette seule forêt. C'est le plus haut lieu de biodiversité en Europe. Je garde 100 vaches. Contre l'avis d'ailleurs de l'État français qui me mise dans une réserve, on ne met pas de vaches. Mes vaches ne sont pas traitées au vermifuge, bien sûr.
Pourquoi ils ne sont pas d'accord pour que vous ayez des
Parce
vaches?
Parce que dans les lois de réserve, on ne laisse pas des animaux domestiques se
On ne mélange pas, d'accord.
Voilà. Or, si j'ai plus de vaches, je perds 64 espèces de scarabées qui ne mangent que des bouses de vaches. Donc, mes excréments de vaches sont utilisés par des scarabées. Donc, je dis souvent, quand l'agriculture s'en va de quelque part, ça peut correspondre aussi à une chute de la biodiversité. Il faut le dire souvent aussi. Par contre, bien sûr, elles ne sont pas traitées au vermifuge. Et on a eu un problème récemment en forêt de Fontainebleau, où des chevaux de club qui sortaient faire des sorties avec des cavaliers, traités au vermifuge, on retrouvait des crottins de cheval dans les allées, couvertes de scarabées morts, tués par les vermifuges qui avaient avalé ces chevaux. Donc, ou on va dans la nature, on ne vermifuge pas les chevaux, ou alors on les garde dans les enclos, effectivement, où il n'y a pas ces scarabées. Donc c'est vrai que cette relation-là avec le vivant, elle est essentielle. Le vivant produit des choses ultra toxiques, hein. Manger des amanites phalloïdes ou l'aconite qui tue, qui foudroie. Mais le vivant sait traiter tout ceci. Et le vivant, en plus, fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Et le vivant, en plus, innove tous les jours, pour tous, pas que pour les riches.
Il recycle.
Complètement. Et puis enfin, ce qui est fabuleux à dire, c'est que le vivant, toujours, ne maximise jamais les coûts et les profits. le vivant, il optimise en permanence. Et on revient toujours à mon exemple des performances de ma libellule.
Gilbert, sur la domestication, c'est un point assez surprenant, parce que quand vous nous parlez de la sensibilité de tous ces animaux, leur familiarité avec vous, en l'occurrence, avec ceux qui les étudient, on se demande souvent pourquoi le cheval est domestique et pas le zèbre.
Ah, c'est
une question que vous vous êtes posée,
oui, bien sûr.
Pourquoi le renne, pourquoi le mouton et pas le mouflon.
Il y a un joli papier d'ailleurs écrit par Jared Diamond en co-auteur, le type qui avait parlé de collapse sur l'île de Pâques. Et ils ont regardé effectivement à l'époque, alors, la domestication elle intervient entre 14 000 ans et 8 000 ans. Hein. Le premier, alors le chien le premier, il y a 35 000 ans. Après, même époque, le chat, puis ça va être la chèvre, les vaches, puis après le cheval, beaucoup plus récemment. C'est le lapin le dernier, pour des facilités d'élevage. Ils ont tout essayé, en fait, les humains de l'époque. Hein. Et comme vous disiez très justement, pourquoi ça a marché avec le cheval, pas avec le zèbre? Alors je dis aux gens, mettez d'ailleurs sur un zèbre, vous comprendrez vite pourquoi effectivement il n'a pas été choisi par rapport au cheval. Si je prends les poissons, la truite américaine de l'Ouest américain, la truite arc-en-ciel, a été domestiquée. La fario européenne, beaucoup moins, parce qu'elle est plus difficile en fait. Hein. Donc il y a eu des facilités d'espèces qui ont accepté la présence de l'homme. D'autres qui sont devenus vraiment mais tellement proches, comme le chien. Le chien a coévolué avec l'humain. Par exemple, il y a une théorie qui n'est pas inintéressante, c'est que sur les gisements de néandertaliens, on n'a jamais trouvé de chien. Or, ils ont été, pendant un moment, ils ont été, on s'est même croisés avec les Néandertaliens, les sapiens. Et une théorie, il faudrait voir ce qui se passe, je ne dis pas que c'est la réalité, en tout cas c'est intéressant, c'est que les Néandertaliens auraient eu un avantage, un désavantage par rapport aux sapiens, parce qu'ils n'avaient pas les chiens pour prévenir quand arrivaient les tribus, ou bien pour aller à la chasse, par exemple. Et c'est vrai que la domestication, elle est fascinante. Alors, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est de voir l'effondrement du vivant sur les deux chiffres. On s'arrête à peu près de bouger, les femmes font beaucoup d'enfants, il y a 12 000 ans, on s'arrête. Donc, et on commence à domestiquer et à élever et à cultiver, puisqu'on ne peut pas tout produire, il faut qu'on produise en agriculture, en élevage. On est à peu près à l'époque, lors de 0,1% les animaux domestiques mammifères. Aujourd'hui, les animaux domestiques mammifères sont 90% par rapport aux animaux sauvages. Ce qui veut dire qu'on a des biomasses, des masses d'animaux domestiques considérablement plus grandes que les masses. En l'occurrence, les mammifères, c'est pareil pour les autres, pour les animaux sauvages. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus en biomasse d'animaux domestiques que d'animaux, en fait, sauvages. Y compris les baleines et tout ce qu'on veut.
Cette biodiversité, donc, dont la disparition vous inquiète beaucoup, elle commence à intéresser évidemment les politiques, on va y revenir, de quelle manière on peut leur faire confiance et leur demander d'agir davantage. Hein, cette fameuse pétition qui est en cours en ce moment et qui a déjà eu lieu dans d'autres pays, c'est en cours en France avec un beau succès d'ailleurs. Vous dites que ça intéresse aussi le comité d'éthique qui vous a interrogé, je crois, lorsque vous étiez peut-être président du muséum à l'époque.
J'avais fait une interview avec Jean-Claude Amezen.
Comité national d'éthique.
Voilà, et donc il y a un texte.
Qu'est-ce qu'il vous demande?
Ben, en fait, il me demandait en fait comment moi, en spécialiste des questions du vivant et de biodiversité, j'analysais l'aspect éthique de la situation. Il est évident que c'est aussi un aspect extrêmement préoccupant. On me dit, ouais, mais ça c'est du luxe de pays développés ou de pays riches, l'éthique. Non, non, c'est important à tous les niveaux. Le dauphin du Yangtze-Kiong, c'est une des dernières grandes espèces vraiment disparues, celle-là éteinte, c'était il y a 10 ans. Il est parti, donc on ne pourra pas le reprendre. Donc il y a l'aspect éthique, et l'aspect éthique doit être de plus en plus pris en considération si on veut rester dans des relations humaines qui soient harmonieuses. C'est Edgar Morin qui est mon maître à penser, qui disait en fait, il nous faut une éthique générale, il nous faut une conscience humanitaire planétaire, dans laquelle est inclus bien sûr le respect de l'animal. Mais on refuse la dignité à l'animal, on dit non, il n'y a que l'humain qui est digne. Et bien dans ce cas-là, s'il n'y a que l'humain qui est digne, cette dignité-là implique que lui doit se préoccuper et respecter les animaux, ce qu'on ne fait pas.
La chasse, par exemple, vous dites, il y a encore, c'est vous qui le dites, des imbéciles qui vont, qui achètent un permis pour tuer un éléphant
30 000 euros pour tuer
à 300 mètres.
Une girafe, oui, voilà, avec une balle blindée. Je leur dis souvent, vous savez, je vous donne le biface des hommes préhistoriques, là, un caillou taillé. Allez me tuer un sanglier avec ça, on verrait qu'il a ses chances, ce sanglier. Hein. C'est l'arme à feu lointaine qui permet de tuer. L'homme tue à distance, il n'y a plus de corps à corps. Ça a changé beaucoup de choses. Un corps à corps avec un lion, les guerriers Maasai en savaient quelque chose. Hein. Ça laisse des traces. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la situation.
Les concours de pêche, ça a supprimé. Alors, ça, je l'ai appris grâce à vous. Ça a supprimé les thons, par exemple, qui étaient beaucoup plus grands qu'autrefois.
Les concours de chasse sous-marine, où on sacrait quelqu'un champion sur la mort du plus gros animal tué pendant la journée. Ça n'a pas de sens. Je suis pas un anti-chasse, hein, moi je peux comprendre. Encore plus chez les populations dites premières qui chassent parce qu'elles mangent. Quand des lapons ou des samoyèdes tuent une baleine, je trouve ça tout à fait normal, hein, au moment des cycles de reproduction de ces animaux près de la côte. Ce que je trouve curieux, moi, c'est que moi, je fais beaucoup de photos animales. Je suis tellement content quand j'ai photographié un très bel animal, j'ai pas du tout envie de tirer dessus.
Ouais. Alors parlons de l'action maintenant, Gilles Boeuf, s'adapter à tous ces changements. Hein, le lien avec l'environnement était évident, aucune espèce vivante ne peut s'adapter, donc il faut qu'elle change et qu'elle avance. Or nous ne changeons pas beaucoup.
Il y a un papier très intéressant qui est sorti la semaine dernière sur l'évolution des chimpanzés et des humains, en regardant simplement les génomes, hein, on regarde les ADN, et il montre en fait que les grands singes ont évolué beaucoup plus vite que nous depuis une époque récente. Là. Donc c'est intéressant, on verra les conclusions qu'après on va en tirer. Donc l'humain évolue toujours de façon biologique, ça c'est clair. On a grandi de sans arrêt, c'est fini depuis 10 ans, on grandit plus. On a le nombre de dents hein, qui a été beaucoup travaillé, la taille de la bouche. Alors la bouche a plus la place maintenant pour avoir le nombre de dents qu'on avait, ça pose un problème, il faut nous enlever les dents de sagesse. Il y a plein d'évolutions comme ça, mais dans un contexte culturel. Par exemple, il est clair que si on digère si bien le lait aujourd'hui, ça vient des pasteurs d'Asie, des plaines d'Asie centrale, qui ont commencé à élever des chèvres et des vaches. Parce que l'humain adulte n'est pas fait pour digérer du lait de vache, hein, ni de chèvre. Il a fallu qu'on acquiert des enzymes particulières qui nous ont permis de boire du lait et de manger des fromages. Et ça, c'est une acquisition culturelle. Le biologique a suivi. Et c'est vrai dans des pratiques qu'aujourd'hui, par exemple, en Asie du Sud-Est, où ils vont marier leur fille, toujours dans un village lointain par rapport à l'endroit où elle est née, font que ça, c'est pas du tout naturel, c'est vraiment humain, c'est pas non humain, puisqu'on va modifier les stratégies des populations et les structures de population parce qu'on a une pratique culturelle qui fait qu'on va marier nos filles avec des types qui sont beaucoup plus loin. Donc ça, il y a une coévolution culturelle, naturelle. Et aujourd'hui, on essaye de pas opposer les deux. Moi, j'aime pas dire humain et naturel parce que si je dis ça, je sors l'humain de la nature. Je préfère dire humain et non humain.
Mais vous l'aimez bien l'humain quand même.
Bah, bien sûr. Vous savez, plus on vieillit, plus on devient humaniste. Le MEDEF m'invite cet été. J'étais déjà très surpris en me disant, on n'aurait jamais invité un écologue à l'école d'été du MEDEF il y a 15 ans. C'était des poètes rêveurs. On m'invite sur un titre qu'on me donne, a priori. Satan pour la planète. Et je commence mon exposé en disant, le Satan, il n'est pas pour la planète. Il est pour les humains qui sont sur la planète. Et c'est là que l'humain oublie ses relations intimes avec ce vivant. On ne mange que de la biodiversité. On ne coopère qu'avec de la biodiversité. Sans bactéries, on ne peut pas digérer, on ne peut pas se développer. On se rend compte maintenant que ces bactéries au sein de nous-mêmes influent sur des maladies comme l'Alzheimer, le diabète de type 2, l'obésité par exemple. Un obèse n'a pas du tout les mêmes bactéries que tous les deux là. C'est fascinant. On sait aussi que des maladies comme l'autisme interfèrent avec ces bactéries que nous avons au sein de nous-mêmes. Ce livre récent dont je parlais, à tous entrelacés, et puis le livre aussi Jamais seul, nous montre que nous sommes dans un système de coévolution permanente entre les cellules du corps humain et les bactéries que nous transportons.
Par quoi il faut commencer pour éviter de détruire les écosystèmes? Notre vie moderne, c'est de bétonner, c'est de construire n'importe comment.
Là, je rentre d'un colloque dédié à l'agriculture de la Fondation Carasso. On nous redit la même chose. L'artificialisation, le bitume partout, on perd l'équivalent d'un département français tous les 7 ans. Où part la bonne terre agricole? Et dans la terre agricole, on a tué la moitié de nos sols avec nos pesticides et insecticides. On fera pas d'agriculture durable sans vie dans les sols. C'est le sol vivant qui produit. Moi qui suis un marin, c'est parce que l'océan est vivant qu'il est capable de récupérer le quart du CO2 qu'on émet. Tout est là-dessus. Et c'est aussi clair qu'on ne peut pas non plus artificialiser absolument tout. Même au niveau agricole, il est clair que l'agriculture, c'est vraiment le champ d'activité humaine, vital pour l'humanité, mais qui a le plus besoin du vivant. Il faut que ce monde-là s'inspire du vivant au lieu de le détruire. Donc il faut revenir à beaucoup plus d'harmonisation entre ces systèmes et puis le vivant, bien sûr.
Le climat, c'est trop tard?
C'est
et
trop tard.
La biodiversité, c'est encore possible, vous diriez ça?
Oui. Le climat, c'est trop tard pour l'empêcher de changer. Pour une raison très simple, ça c'est l'imprévoyance de l'humain. Quand James Watt invente la première locomotive, on est un peu avant la Révolution française, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher là où ils sont, dans les gisements, de pétrole, donc du plancton, de charbon, les grandes forêts du carbonifère, l'énergie dont on a besoin. Qui s'est posé la question, qu'est-ce qui va se passer si je remets ça dans le système? Le système Terre, il marchait bien, il avait stocké ça pour des milliards d'années, en fait, hein, ça gênait personne. 2 siècles après, on paye la différence avec le changement climatique. Donc cette imprévoyance-là nous a amené à une situation où on s'y prend trop tard. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Un, il faut que on réfléchit sérieusement si un jour on pourra technologiquement enlever le CO2 qu'on a émis en excès. Sans charbon et sans pétrole, on est d'accord. Deuxièmement, pour tenir le 1,5 à 2 degrés, il faut laisser 80% des gisements connus aujourd'hui de charbon et de pétrole, est-ce qu'on va le faire? Trois, ça veut dire aussi que, bien évidemment, on est dans un système aujourd'hui où ces éléments-là, ils sont déjà là dans l'atmosphère. Si on l'enlève pas, ils vont rester là. Même si on arrête d'émettre aujourd'hui, le climat change encore pour deux siècles. Donc, un, réduire les effets actuels, et deux, commencer à s'adapter à ces changements, bien sûr.
Vous parlez de l'exploitation agricole, mais la surpêche aussi modifie le climat. Hein.
Bien sûr, on a montré que les petits poissons pélagiques... C'était fait au Chili, en Namibie. Vous enlevez tous les poissons pélagiques, les sardines, les chinchards, les maquereaux, les anchois. Et là, vous effondrez les oiseaux qui les mangent, ils n'ont plus rien à manger. Vous effondrez les baleines qui les mangent, ils n'ont plus rien à manger. Les poissons de bout de chaîne, dans lesquels il y a les thons d'ailleurs, qui sont des poissons intéressants pour le pêcheur et très rémunérateurs. Qu'est-ce que mangeaient ces poissons? Le zooplancton, le plancton animal. Et qu'est-ce qu'il mange, lui? Le phytoplancton, le plancton végétal. Eh bien, comme il est extrêmement abondant, le zooplancton, il mange tout le phytoplancton, qui joue un rôle important dans la capacité de l'océan à fixer le gaz carbonique. On reboucle la machine.
Question peut-être plus politique, mais enfin qui est liée aussi à l'économie. Il faut vraiment qu'on change de modèle. Modèle capitaliste, c'est fini, c'est pas possible, c'est pas amendable.
Non, et laconique. Bon, moi, je peux comprendre le capitalisme, à condition qu'il soit encadré. Hein. C'est Dalleux, qui était pourtant un capitaliste, hein, il dirigeait ESSO il y a une vingtaine d'années, il disait « Le communisme soviétique s'est effondré parce qu'il ne tenait pas compte de la loi du marché. » Pourquoi pas un marché qu'il faut encadrer aussi. Il disait après, en prémoniteur, il disait « Le capitalisme non encadré va s'effondrer parce qu'il ne tient pas compte des réalités écologiques. » C'est ça qui se passe. Donc aujourd'hui, c'est très clair pour moi, et je vais être un peu péremptoire et clair, il faut absolument qu'on arrête cette économie stupide et suicidaire qui consiste à faire de l'argent en détruisant la nature ou en la surexploitant. Voilà. Ben, on peut passer à autre chose. Mais pour ça, il faut qu'on change.
Et pour ça, surtout, il faut lutter contre les politiques, mais les lobbies aussi, qui sont très puissants. Parce que les lobbies, vous les jugez évidemment très irresponsables, j'imagine.
Ah oui, c'est une
irresponsabilité. Parce qu'ils sont sur du court terme.
Mais en plus, franchement, faut.
Quand je dis les lobbies, par exemple, dans le monde agricole ou dans le monde de la pêche ou quel qu'il soit.
Mais franchement.
Du charbon.
Ils savent qu'ils ont perdu ces gens-là déjà.
Ils le savent.
Mais bien sûr.
Vous êtes sûr.
Mais par contre, on continue à faire du business pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est ça le problème. C'est une irresponsabilité court-termiste. Et le monde politique n'est pas préparé à cela. Les mesures à prendre, elles sont difficiles, elles sont courageuses, elles sont impopulaires. Ça veut dire que qui va les prendre, ces mesures-là? Si c'est une obsession de la réélection, ça ne marchera pas. Donc tout ça, c'est vraiment des choses où l'écologie a un temps, le monde politique en a un autre. Mais je pense que des hommes politiques ont des vraies aussi convictions environnementales. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est difficile à mettre
en... De plus en plus, quand même.
Oui, on l'a vu avec le départ de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot est parti parce que ses papiers sortaient sur l'effondrement des oiseaux ou des insectes. Vous vous rappelez, le 20 mai 2018, il monte à l'Assemblée nationale. Indignez-vous ! On a tous été tellement fiers. Mais qui est descendu dans la rue ? Personne.
Aujourd'hui, on descend dans la rue, Gilbert. Vous voyez, les choses bougent.
Ouais.
Non, on descend aussi dans la rue pour l'écologie.
Pour le climat, un peu.
Pour le climat. Justement, est-ce qu'on peut faire confiance à ces mouvements, à cette prise de conscience qu'on voit quand même émerger un petit peu partout? Quelque part, on ne va pas se laisser faire non plus. On voit ici et là des enfants, des jeunes, des pétitions. On ne va plus aller à l'école si vous, les adultes, ne vous occupez pas du climat. Enfin, vous voyez quelque chose d'angélique là-dedans ou ça commence à bouger?
Angélique. Moi, je pense que si la masse des citoyens bouge, tant mieux.
On va vers votre maître Edgar Morin, là. On va parler, on recherche une harmonie.
Oui, Edgar dit comment on va réécologiser la planète, c'est une vraie question. Mais en fait, il faut que ce soit fait dans une certaine organisation. Parce qu'on arrive à des paradoxes, à des situations qui sont des quadratures de cercle. Mais... je pense que si on était massivement descendu dans la rue après ces événements-là, ça aurait changé les choses parce que on est un petit peu seul.
On a perdu du temps et beaucoup.
J'ai beaucoup aimé Jean Covici quand il a dit récemment, quand les premières manifs de Gilets jaunes ont eu lieu, là, c'était très très beau ce qu'il a dit. Il a dit, d'un côté, il y a la fin du monde, de l'autre côté, la fin du mois. Le problème de la fin du mois, c'est qu'elle se répète tous les mois. Donc effectivement, quand tous les mois on répète la fin du mois, on s'occupe pas de la fin du monde. Donc lutter contre le changement climatique, s'y adapter et empêcher, enrayer ce mouvement d'effondrement du vivant, de ce collapse du vivant-là. Et pourtant, c'est fondamental. L'appel des 200 que j'avais signé début septembre là dans Le Monde, c'était « On ne fait plus confiance à aucun homme politique qui ne met pas ces questions-là en première priorité des priorités. » Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui ?
Mais la pétition, les citoyens commencent à dire la même chose.
C'est juste.
On a eu un exemple aux Pays-Bas, on voit en France cette signature.
Mais oui, puis vous savez ce qu'a dit Edgar Morin récemment aussi,
l'affaire du siècle.
Oui, qui dit, Quand on gouverne en fait un État, quel qu'il soit, en laissant une grande partie des gens de côté, le premier gourou qui passe, il gagne. Et qu'est-ce qu'on a vu au Brésil, en Italie ou en Hongrie? Il faut qu'on commence vraiment sérieusement à réfléchir. Tous les citoyens de bonne volonté doivent penser à cela.
Vous êtes un scientifique, bien sûr, Gilles Boeuf. La technologie, quand même, vous y croyez? Elle peut encore nous sauver compte tenu de l'urgence dans laquelle on est. Je dis ça parce que, par exemple, la géo-ingénierie, vous savez, d'envoyer des petits ballons de soufre dans l'atmosphère, ça faisait peur à tout le monde. Mais aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas une des solutions, vu l'urgence?
Je pense que tant qu'on ne connaîtra pas plus, je ne m'y risquerai pas. Pour moi, les dangers sont beaucoup plus grands que ce qu'on pourrait éventuellement lâcher des OGM massivement en mer, par exemple, pour les faire avec des huîtres. Ça, la géo-ingénierie, c'est un problème, parce que supposons qu'on arrive techniquement à refroidir le système, il sera là le CO2. Et si un jour on s'arrête de mettre ces particules, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre combien de degrés en combien de temps? Non, je pense qu'on n'a pas suffisamment de connaissances pour l'instant. On joue à l'apprenti sorcier. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir un comportement différent, où, et c'est le rôle de l'Agence française pour la biodiversité, on ne fait plus aucun projet, quel qu'il soit, sans tenir compte de l'impact. Alors la technologie, moi, j'ai rien contre la technologie. Ce qui me gêne, c'est ces simplistes qui pensent que la technologie va toujours, en temps utile, nous permettre de réagir. On rappelle les plans B, il n'y en a pas de plan B. Récemment, on me disait, mais est-ce qu'on peut aller sur Mars? Sur Mars, on va en envoyer 20, qui vont s'entretuer au bout de 6 mois. C'est pas un plan B. Donc, il faut penser aussi, bien sûr, aux 8 milliards d'humains. Tout à l'heure, je disais, la nature innove pour tous. On n'innove que pour quelques-uns, nous, en fait.
Et ça nous concerne tous. C'était notre point de départ. Et vous le répétez.
Éradiquer la pauvreté, c'est la première chose à faire.
Merci infiniment, Gilles Boeuf, et tenez un petit cadeau pour vous.
Ronde des abeilles.
J'ai vu trois abeilles qui, dès le matin, faisaient des merveilles au fond du jardin. La plus jeune abeille, butinant du thym, m'a dit à l'oreille, mon miel est divin. La seconde abeille m'a mis sur la main un peu de groseille pour manger mon pain. Enfin la plus vieille m'a dit en chemin, allons à la treille goûter le raisin. J'ai vu trois abeilles qui dès le matin faisaient des merveilles au fond du jardin.
Vol de la libellule.
Mon avion minuscule est en acier bleuï, je suis la libellule et j'arrive sans bruit. Tandis que je circule au ras d'un pré fleuri, je cherche avec scrupule un joli point d'appui. Lors mes ailes de tulle tournent au ralenti, et sur un monticule je coupe le circuit.
Super!
Voilà, c'était un petit cadeau.
C'était sympa,
par Anne-Laure Chanel.
Un bon épilogue.
Merci encore d'être venu nous trouver. Merci encore à notre petite équipe, donc Anne-Laure Chanel, qui à l'instant réalise cette émission comme chaque soir. Sandrine Chaperon, Catherine Donnet pour la préparation, pour la documentation sur notre site. On va retrouver plein de références, vous avez cité vous aussi des ouvrages, mais tous nos invités l'ont fait. Et il y a effectivement beaucoup à lire sur toutes ces questions. Quoi encore, eh bien vous donner un rendez-vous à tous demain soir. Merci Gilles Boeuf d'être venu nous trouver.
Bonsoir, avec plaisir.